Amen. Donc, je voulais juste, avant ça, il y a un pub que j'ai oublié, bien important, n'oubliez pas aussi que l'école biblique, le centre de formation biblique Raymond commence en octobre, et puis on va vous donner plus d'informations la semaine prochaine. Donc, il y a des gens qui ont posé les questions, ils voulaient savoir c'est quand ça commence, donc c'est en octobre, et je vais vous donner les informations la semaine prochaine. Mais ce matin, nous allons continuer notre série sur les anges de la rénovation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu l'émission « Les anges de la rénovation » Ouais. Et j'avais à cœur de faire cela il y a quelques semaines, et on fait une série basée sur l'histoire de Néhémie. Et juste avant de commencer ce matin, on va faire une déclaration de la foi que nous aimons faire ici. Donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à prendre la Bible entre vos mains. Sinon, il y a une feuille que je vous ai donnée à la porte, quelqu'un nous a donnée à la porte, qui contient presque tous les versets que nous allons lire ce matin. Donc, on va dire ceci, « Voici ma Bible. » C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai jamais plus pareil. Et je serai pour toujours et à jamais transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus. Amen. C'est bon, hein? Imaginez comment ça va sonner quand nous sommes rendus à 300, 400, 500 et plus, hein? Ça va être fun. Mais regardez bien. En Néhémie, il y a des choses que nous avons déjà vues. En fait, on pourrait dire que le verset clé que nous avons pris pour cette série, c'était en psaume 127, où la parole de Dieu dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie. On peut essayer de construire notre vie à notre manière, à notre façon, à notre goût. Mais une chose que j'ai découvert, et que sûrement vous avez découvert, c'est que si nous ne baptisons pas avec le Seigneur, ça donne pas grand-chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Combien de fois nous avons construit les choses, nous avons poursuivi les rêves, les visions, les projets que nous avons formés, et ça avait l'air vraiment beau, merveilleux, jusqu'au moment où la tempête arrive et tout d'un coup, on n'a plus rien. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu a un plan. Dieu a des projets qu'il a formés sur vous. Et si vous suivez ses plans et ses projets, ses plans sont déjà bénis. Le problème, c'est que trop souvent, en tant que chrétiens, nous formons nos propres plans et nous demandons à Dieu de bénir nos plans. Mais savez-vous, c'est beaucoup plus sage juste de trouver c'est quoi le plan de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que ses projets sont déjà bénis. La vision et la provision vont de pair, n'est-ce pas? Donc, si j'ai la bonne vision, je vais toujours avoir la bonne provision, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va continuer. En fait, c'est le quatrième message. Je remercie l'équipe pastorale qui a pris bien soin de l'Église pendant mon absence. On était partis pendant 2 semaines. Et je sais que vous avez eu des bons messages les 2 dernières semaines sur aussi le sujet de comment construire ta vie de rêve. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent construire une vie de rêve? Donc, on sait que si on veut construire une vie de rêve, il faut construire pas juste pour Dieu, mais avec lui. Il faut suivre son plan. Il faut avoir sa provision. Il faut avoir sa force pour le faire. Comme c'était le cas pour Néhémie. Et juste au cas où qu'il y a des gens qui sont ici ce matin, qui n'étaient pas là les autres semaines, juste pour vous rappeler et rafraîchir un peu la mémoire de qu'est-ce qui se passe avec Néhémie. Néhémie, c'était un homme qui avait quand même une position d'influence auprès d'un roi étranger quand les enfants de Dieu, les enfants d'Israël étaient les captifs, quand ils ont été amenés captifs dans un pays étranger. Néhémie avait un rôle important, c'est lui qui portait la coupe du roi. Et vous savez, vous vous rappelez pourquoi les Israélites étaient captifs, c'est parce que ils étaient dans la terre promise, ils avaient déjà construit un temple, il y avait déjà les murs autour de la ville de Jérusalem, sauf qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont abandonné les voies de Dieu. Ils ont abandonné la parole de Dieu et les ordonnances de Dieu. Et à cause de leur désobéissance, ils ont ouvert la porte à l'ennemi et à la destruction. Combien de fois est-ce que nous avons ouvert la porte nous-mêmes à l'ennemi dans notre vie? Souvent, on voit les choses qui vont mal dans notre vie et on dit, bon, hein, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont portés à croire que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Mais en réalité, ce que nous savons, c'est que notre désobéissance ouvre la porte à la destruction, n'est-ce pas? Et c'est ça qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils ont désobéi à Dieu et les ennemis sont venus détruire, ils ont rasé la ville de Jérusalem. Et puis, le temple était détruit, les murs ont été détruits, le peuple de Dieu était captif, et Néhémie, c'était un homme, un juif, qui avait une place, une position, on pourrait dire qu'il était à l'aise dans un pays étranger. Il avait un bon poste, un bon boulot, un bon travail, sûrement, il était là au palais du roi la journée longue, c'était vraiment bien. Sauf que, au moment donné, il avait dans son cœur quelque chose qui marchait plus. Il a entendu que sa ville, la ville de Jérusalem, était détruite, les murs étaient détruits, et puis il avait à cœur, le Seigneur a mis dans son cœur, de rentrer et de rebâtir et de reconstruire les murs de Jérusalem. Et le Seigneur lui a donné la faveur parce que c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Et même le roi, qui n'était même pas juif, il a ordonné à ce que tous les autres leaders dans la région paye pour la construction du mur et du temple. C'était vraiment une histoire incroyable. Donc, Néhémie est rentré à Jérusalem avec à peu près 40 000 personnes qui sont allées avec lui pour reconstruire les murs. Et ils ont travaillé fort. Et on a parlé de ça depuis quelques semaines. Et le verset qu'on veut voir maintenant, c'est Néhémie 6:15 qui dit « La muraille fut achevée le 25e jour du mois de l'Elul en 52 jours. » Vous vous rappelez? 52 jours. Quelque chose, hein? C'est énorme. On ne parle pas d'une petite clôture ici. On parle d'un mur qui est énorme, qui est large. Il y avait des maisons qui étaient construites même. C'était incroyable la largeur et la hauteur de ce mur qui faisait le tour de toute la ville. Mais dans 52 jours, ils ont reconstruit les murs de Jérusalem. Mais regarde bien, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent d'une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Soulignez cette phrase. Néhémie a fait la volonté de Dieu. Il a suivi le projet que Dieu a formé sur lui, qui avait une pleine provision, et même s'ils ont eu des défis, même si c'était difficile, même si à plusieurs reprises il avait besoin d'encourager le peuple qui voulait lâcher parce que c'était trop dur, il y avait des menaces, il y avait des critiques, il y avait toutes sortes de choses, il a quand même réussi à diriger une équipe énorme pour reconstruire tous les murs. Et qu'est-ce qui est le fun dans cette histoire? C'est que tout le peuple non-juif ont reconnu que c'était la main de Dieu qui a donné le succès. C'est-à-dire que une fois que c'était terminé, tout le monde ne disait pas, oh, regarde, les Juifs sont bien intelligents, les Juifs sont brillants. Ils ont dit, ça doit être un Dieu puissant qui les a aidés à faire cela. Combien de vous aimeriez qu'à la fin de votre vie, que les gens disent, wow, il y avait quelque chose de spécial avec ce gars, avec cette femme. Il y a quelque chose de différent. Ça doit être une force surnaturelle qui l'a soutenue. Ça doit être quelque chose qui est hors normal. C'est pas un homme normal. Ça, c'est un homme extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de notre vie, les gens donnent gloire à Dieu pour qu'est-ce qu'il dit, qu'il voit, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous tente d'avoir une vie comme ça? Moi aussi. Je veux pas juste avoir le status quo, je veux faire quelque chose qui va faire une différence pour l'éternité. Mais aujourd'hui, on veut terminer cette série avec quelques pensées. Et je pense que ça tombe bien, parce qu'on a donné le titre « Les anges de la rénovation », parce qu'on pensait même à l'émission, à la télévision, où il y a des équipes qui arrivent pour aider les familles qui sont dans les besoins, et puis ils vont construire dans une semaine une belle maison, etc., etc. Et aujourd'hui, on vient de vivre une expérience semblable, n'est-ce pas? avec l'équipe de Syracuse. Ils sont venus, ils ont donné de leur temps, de leur énergie, avec tout l'amour de leur cœur. Ils nous ont servi et en nous servant, ils ont servi le Seigneur. Mais regarde bien, je pense qu'on peut faire quelques parallèles aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons voir l'importance de saisir notre raison d'être quand, à chaque fois que nous faisons quelque chose selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu et nous avons du succès, il faut faire attention de ne pas oublier le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais qu'est-ce que je fais? Ça se peut comme on a Esther qui a reçu la bourse d'études. Elle veut suivre une formation dans la danse. Mais il faut jamais qu'elle oublie pourquoi. Elle peut devenir la meilleure danseuse au monde. Elle peut danser avec une expertise extraordinaire. Mais il faut jamais qu'Esther oublie pourquoi elle danse. Elle danse pour la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Si le Seigneur met un projet dans votre cœur pour commencer un commerce, et vous réussissez. Peut-être vous allez avoir du succès, vous allez gagner beaucoup d'argent. Il faut jamais oublier pourquoi vous êtes en train d'avoir ce succès. Amen. C'est pour la gloire de Dieu, pour investir dans ses œuvres, pour faire promulguer l'Évangile, n'est-ce pas? Peu importe qu'est-ce que le Seigneur vous demande à faire. Vous avez à cœur de vous marier, d'avoir un mariage qui est heureux et épanoui. Laisse-moi vous dire, il faut jamais oublier. Pourquoi? C'est quoi la raison de ce mariage? Chaque mariage est destiné à donner gloire à Dieu. Peu importe ce que vous faites dans la vie, que ce soit dans le commerce, dans la famille, dans l'église, savez-vous quoi? C'est facile même dans le contexte d'une église d'oublier pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Je connais des personnes, et ils prêchent, ils aiment prêcher, mais ils aiment prêcher pour prêcher. Je connais des personnes qui aiment jouer la musique parce qu'ils aiment jouer la musique. Il y a des personnes qui aiment faire du ministère parce qu'ils aiment faire du ministère. Mais c'est facile, même pour les pasteurs, d'oublier pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Regarde quelqu'un et dit, ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Regarde la personne à l'autre côté et dit la même chose. Donc, vous savez, quand nous parlons de Néhémie, souvent on va lire les premières 5 ou 6 chapitres où on voit l'œuvre qui a été accomplie, on voit les travaux, on voit que dans 52 jours, ils ont été capables d'accomplir et de reconstruire les murs. Mais Néhémie ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que nous allons voir ce matin? C'est un peu la suite de l'histoire. On va voir qu'après avoir terminé le projet de construction. Comme ici, nous avons presque terminé le projet de rénovation ici. Mais pourquoi est-ce que nous rénovons le bâtiment ici? Pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Il faut jamais oublier. C'est un outil. C'est temporaire, le bâtiment. Hein? C'est juste pour un certain temps que nous sommes ici. Mais nous sommes ici dans cette bâtisse pour rejoindre le monde, pour faire un impact dans cette ville, dans cette province, dans la francophonie et au-delà, n'est-ce pas? Et je suis convaincu qu'on va être capable de rejoindre plus du monde. On va être capable de gagner plus d'âmes parce que nous avons une belle place pour les recevoir. Et parce que nous avons gardé notre parole que nous avons donnée à la ville, que nous allons faire ces travaux, n'est-ce pas? Toutes ces choses vont de pair. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il faut jamais oublier le pourquoi. Et c'est ça qui se passe en Néhémie. Après les 52 jours, les murs sont terminés, mais après, ils ont quand même besoin de se rappeler du pourquoi. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit le peuple de Dieu en train de vivre un genre de réveil spirituel, suite aux travaux. Et on va voir 3 choses, en fait, que moi, je pense que ça va de pair avec ce que nous avons vécu. Et quand je méditais cela, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine avec l'équipe de Syracuse. Il y a 3 choses qui sont venues dans mon cœur. Et 3 choses que je crois que le Seigneur veut que je partage avec vous. 3 choses. Si nous allons saisir notre raison d'être, et pas juste faire les choses pour faire les choses, il y a 3 choses qu'il faut jamais oublier de faire. Numéro 1, attachez-vous à votre famille. J'ai vu cela en fin de semaine. Et quand je parle de la famille, je ne parle pas de la famille Taylor, ou la famille Como, ou la famille Bibo, ou la famille Sorrentino, ou la famille Nado. Je parle de la famille de Dieu. Attachez-vous à la famille de Dieu. Savez-vous, et ça m'a vraiment frappé, je pense que c'était vendredi, on travaillait, je pense qu'on pelletait la gravelle ou quelque chose, et tout d'un coup, je regarde et je vois toutes ces personnes, ces amis de Syracuse qui travaillent fort, de tout leur cœur. Et j'ai eu la pensée que c'est merveilleux de faire partie de la famille de Dieu. Parce que ces personnes-là sont mes frères, n'est-ce pas? Et même si la plupart d'eux ne parlent pas le français, et il y a bien des gens ici qui ne parlent pas l'anglais, je voyais les Québécois travailler à côté des Américains et ils étaient un dans le Seigneur. C'était pas une question de race ou de question ethnique, c'était vraiment nous sommes une famille. Jusqu'à quel point je suis reconnaissant. Et une autre pensée qui est venue dans mon cœur, c'était fort dans mon esprit, c'était vraiment, on pourrait dire, un esprit de reconnaissance qui est monté dans mon cœur. Je voyais toutes ces personnes et je me suis dit, tu sais quoi? Ces gens-là sont ici, premièrement, bien entendu, c'est pour la gloire de Dieu, mais je pensais à l'obéissance de leur pasteur, Pasteur John et Lisa Carter, qui ont fondé l'église à Syracuse il y a quoi, donc presque 20 ans, je pense. Et laisse-moi vous dire que c'était vraiment dans mon esprit que si Pasteur John et Lisa n'auraient pas obéi à Dieu pour faire qu'est-ce que Dieu a demandé à faire à Syracuse, ces gens ne seraient pas là aujourd'hui. Je pensais à ça et je me suis dit, wow, et Tanya et moi, nous avons fait qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire, nous sommes là. Et vous avez fait qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire et vous êtes là. Et chacun faisait la bonne chose au bon moment avec les bonnes personnes. Ça, c'est une famille, n'est-ce pas? Et on voit l'interdépendance, on voit les liens qui sont tissés. Ce sont les liens. L'autre jour, ils ont fait une interview avec moi pour un film qu'ils faisaient pour Syracuse. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que vous allez apporter avec vous suite à l'expérience de ce projet. Qu'est-ce que vous allez amener avec vous pour le restant de votre vie? Je dis, tu sais, la chose que je vais amener avec moi, c'est surtout un amour dans mon cœur pour l'équipe. Et les nouveaux amis que nous avons faits. Parce que je remercie le Seigneur pour les briques qui sont extraordinaires, pour les patios avec le béton étampé qui est extraordinaire, pour le gazon et pour les peintures et pour toutes les choses qui ont été faites. Je remercie le Seigneur pour cela, mais ça c'est temporaire. Mais la relation que nous avons avec la famille de Dieu, ça c'est éternel. N'est-ce pas une bonne chose? Donc, combien c'est important pour nous de rester attachés à notre famille spirituelle. Une chose que vous allez remarquer, chaque membre de leur équipe, ils ont une dévotion incroyable à leur église. Ils font un, ils ont une vision commune. Et c'est une église qui est dans l'unité de l'esprit et ils s'aiment comme nous. Amen? Et c'est ça le fun, quand on peut prendre des personnes de n'importe où dans le monde. On les connaît pas, on parle même pas la même langage, mais nous sommes dans la même famille. Yeah. Alléluia. Donc, restez attachés à votre famille locale, tout en sachant que nous faisons partie d'une famille universelle. Mais j'ai vu cela en Néhémie 7:5. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Donc là, Néhémie, après la construction des murs, il avait dans son cœur de dénombrer le peuple et de, on pourrait dire, déterminer les lignes généalogiques. Il y a une raison pour cela. Parce que Dieu voulait que chaque famille soit à la bonne place et en même temps, il y avait certaines personnes de certaines familles qui étaient appelées à remplir les fonctions des sacrificateurs. Donc, il fallait que tout le monde soit à la bonne place. Mais remarque bien, Néhémie 7:61. Voici ceux qui partirent de tel Mélac, de tel Archa et de Kerub Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Il y avait des personnes parmi eux qui n'avaient pas une preuve de leur lien généalogique. Ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne les trouvaient point. On les exclut du sacerdoce. Pourquoi est-ce que je souligne cela aujourd'hui? Parce que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Néhémie avait besoin de savoir, vous, vous faites partie de quelle famille? Est-ce que vous êtes vraiment israélite? Est-ce que vous faites partie de ceux qui peuvent servir comme sacrificateurs? Il y avait des gens qui ne pouvaient pas trouver leur ligne généalogique. Et à l'époque, c'était absolument nécessaire que les bonnes personnes soient à la bonne place. OK? Mais moi, je pense qu'on peut prendre cela et faire un parallèle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas votre race dans le naturel. Ce n'est pas votre lien paternel dans le naturel. La seule et unique chose qui compte, c'est qui est votre famille dans l'esprit. Parce que la Bible dit clairement qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, mais Christ est tout et en tout, n'est-ce pas? En Jésus, nous faisons un seul corps, une seule famille, et selon la parole de Dieu, si vous êtes chrétien aujourd'hui, la Bible dit que vous faites partie d'une race élue. Savez-vous que vous faites partie d'une race élue? Il y a des gens qui vont dire, et ça sonne drôle dans mes oreilles, je fais partie d'une race élue. Je parle pas d'une race élue comme prêchait Hitler, hein? Hitler avait toutes sortes d'idées bizarres dans le naturel. Il a tordu les choses. Mais là, je parle de la vérité qui est pure, qui est simple, c'est que tous ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez blanc, que vous soyez violet ou rose ou n'importe quelle autre couleur, que vous soyez grec ou français ou anglais ou chinois, peu importe, que vous soyez mâle ou femelle, peu importe, si vous donnez votre vie à Jésus, vous faites partie de la famille de Dieu. N'est-ce pas bon? Alléluia! Et vous êtes dans une race élue. Qui a été élu? Jésus. Jésus, c'est lui qui était élu avant la fondation du monde. Donc, si vous êtes en lui, vous êtes élu avec lui. Amen. C'est lui la tête, vous êtes le corps. 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Tout le monde dit, je fais partie d'une race élue. Amen. En sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. N'est-ce pas bon que personne ne va être exclu? En Néhémie, il y avait des gens qui ont été exclus parce qu'ils n'avaient pas en preuve de leur lien généalogique. Mais personne ici doit être exclu. Aussi longtemps que nous sommes en Jésus, nous sommes inclus. Alléluia. Alléluia. Puis vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Donc en Jésus, nous sommes une race élue. Donc ne perdez jamais l'habitude de vous exhorter ou de vous assembler régulièrement. Sachez, moi, même... Je sais pas si je devrais partager cela, mais juste dernièrement, dans mon esprit, je ressens les choses qui s'en viennent sur la planète Terre. Je ressens qu'il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Laisse-moi vous dire, la Bible est claire là-dessus que dans les derniers jours, quand tout le monde dit paix, sécurité, soudainement, la destruction va arriver. Soudainement, les choses vont arriver. Et c'est là où vous aurez besoin de votre famille plus que jamais. Laisse-moi vous dire, que c'est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et la parole de Dieu dit clairement, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le quoi? Le jour. Le jour s'en vient, Jésus revient bientôt, mais plus que jamais on a besoin de s'assembler. Le mot assemblée, c'est pas juste, ça donne pas l'impression qu'on a... C'est pas juste deux personnes dans la même pièce. On peut avoir 100 personnes, 1000 personnes dans la même pièce, mais cela ne veut pas dire que nous sommes assemblés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà acheté un vélo ou quelque chose avec 1000 morceaux qui n'est pas encore assemblé? Et peut-être les parents, c'est Noël, et puis pour le lendemain, il faut que ça soit assemblé. Donnez une boîte de morceaux à votre enfant à Noël. Elle dit, joyeux Noël! Il ouvre la boîte et il y a 1000 morceaux qui tombent à terre. Oui, tous les morceaux sont là, mais tous les morceaux ne sont pas assemblés. Et dans l'Église, nous avons besoin de ne jamais abandonner notre assemblage. C'est-à-dire, tout le monde est à sa place, tout le monde fonctionne avec sa grâce. Nous ne sommes pas juste dans le même bâtiment, mais nous avons la même vision, le même cœur, les mêmes buts. Nous sommes un, nous sommes ensemble, ensemble. C'est beaucoup plus de fun pour l'enfant d'arriver. « Wow, il y a un vélo! » C'est déjà assemblé. Tout de suite, il peut partir et faire du vélo. Sauf au Québec, faire du vélo à Noël, c'est pas si... Hein? N'oubliez pas que nous faisons partie d'une famille spirituelle. Attachez-vous à votre famille. Ça, c'est la première chose que j'avais dans mon cœur pour aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il faut bâtir ou fortifier votre foi. Les gens qui sont venus de Syracuse, ils sont venus parce qu'ils avaient foi en Dieu. Et là, ça veut dire, on a vu leur foi en action à plusieurs reprises. Il y a des gens qui avaient besoin de mettre leur foi en action juste pour avoir la faveur pour pouvoir s'absenter de leur travail pendant quelques jours. Il y a d'autres qui avaient besoin de la foi pour obtenir les finances nécessaires parce que c'est eux autres qui ont payé de leur propre poche pour venir travailler pour le Seigneur et pour nous. Vous autres, les gens de notre église, c'est la même chose. Il y a des gens ici qui ont pris des congés pour travailler à l'église. Ça a pris la foi pour le faire, n'est-ce pas? Ça a pris la foi pour toutes ces choses. Néhémie, c'était la même affaire. Ils avaient besoin de la foi pour bâtir les murs, mais Néhémie savait au même temps qu'une fois que le mur soit construit, que s'ils voulaient saisir leur raison d'être, pourquoi est-ce qu'ils ont bâti les murs? Pour la gloire de Dieu. Néhémie savait qu'il faut que la foi de ce peuple soit bâtie, fortifiée et encouragée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué toutes les Israélites pour une réunion d'église, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ici, en Néhémie 8. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Tout le monde dit comme un seul homme. Sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, on pourrait dire leur Bible à l'époque, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous garder jusqu'à 4 heures aujourd'hui. Mais laisse-moi vous dire, si on est en réveil, peut-être ça vous dérangerait même pas. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Qu'est-ce que Néhémie est en train de faire? Il est en train d'instruire le peuple, mais aussi nous savons, il y a un principe, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Donc la foi de ce peuple est en train d'être bâtie et fortifiée. Et si vous voulez saisir votre destinée, saisir vraiment votre raison d'être, il faut vous attacher à votre famille spirituelle, et aussi il faut fortifier et bâtir votre foi sur une base régulière. Comment est-ce qu'on fait cela dans la pratique? OMC, oui, mais comment? Premièrement, donner une place élevée à la parole. Il faut que la parole de Dieu soit la chose la plus importante dans votre vie. Plus important que votre déjeuner. Plus important que vos loisirs. Plus important que votre emploi. Plus important que n'importe quoi. La parole de Dieu doit avoir une place élevée dans nos vies, n'est-ce pas? Et on voit cela en Néhémie. Verset 4 de Néhémie 8 dit, « Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé. » Tout le monde dit « élevé ». Il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Donc, est-ce que vous voyez l'image? Ils ont conçu une estrade. On parle d'un grand nombre de personnes, des milliers de personnes. Et il est là en haut et la parole de Dieu a pris une place élevée dans la vie du peuple à ce moment-là et on doit faire la même chose. On doit construire une estrade, si vous voulez, dans l'esprit pour la parole de Dieu. Il faut donner la place à la parole qu'elle mérite. Vous êtes d'accord avec cela? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai quand même. Donner une place élevée à la parole, on continue. Et il dit, regarde bien, Ezra ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'a ouvert, tout le peuple se tient en place. Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen. Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Qu'est-ce que je vois là-dedans? C'est que les gens ont répondu à la parole. Ils ont dit Amen et Amen. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Donc, ça me dérange pas si vous dites Amen. En fait, j'aime ça. C'est juste plus de gaz pour le moteur de prédication, hein. J'aime ça. Mais c'est biblique même de dire Amen et Amen. Mais aussi, c'est pas juste une réponse à la parole. Ils se sont prosternés aussi à la lecture de la parole. Et ça me montre une attitude de humilité devant la parole où on reçoit avec douceur la parole de Dieu plantée dans notre cœur. On reconnaît que la parole est haut et élevée et qu'elle a l'autorité suprême dans ma vie. Si vous voulez saisir votre raison d'être, il faut bâtir votre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, donner une place élevée à la parole, il y a une autre pensée là-dessus, quand on parle de fortifier votre foi. Engagez-vous à mettre la parole de Dieu en pratique. Engagez-vous à mettre la parole de Dieu en pratique. Savez-vous, ça ne donne rien d'entendre la parole et de dire Amen, Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est facile de dire Amen? On va juste donner une illustration. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même. Et toutes les femmes disent Amen. C'est facile de le dire dimanche matin à l'Église. Mais c'est lundi matin que des fois c'est plus dur. Ou c'est mardi, mais pas pour moi, c'est facile, hein? Faut que je fasse attention, là. Parce que ma femme est juste en arrière. Je sais pas si elle porte attention à ce que je dis, mais... Parce qu'elle est tellement occupée à traduire, mais... Mais c'est facile à dire Amen, mais c'est pas assez. Il faut mettre la parole en pratique. Sinon, on est des auditeurs oublieux. Et la Bible dit, on se trompe soi-même. On peut se tromper en pensant qu'on est des bons chrétiens, on vient à l'église, on écoute les prêches, et on y va, et on vit comme le diable pour la semaine. Ça marche pas. Il faut s'engager. À chaque fois que j'entends la parole, je prends une décision, avec l'aide du Seigneur, à mettre la parole en pratique. Vous êtes là? Et le Seigneur nous donne la grâce pour le faire. Parce que ça, c'est la bonne chose. Quand Dieu vous demande à faire quelque chose, il vous donne toujours la grâce, la puissance et la capacité de le faire. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Regarde qu'est-ce que Néhémie a fait. Après avoir entendu la parole de Dieu et ils ont fait la lecture de la loi de Dieu, pour tout cela, nous contractons une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Quelque chose. Tout le peuple ont entendu la parole et ils ont fait une alliance. Ils ont même fait un document et tous les leaders ont signé un serment que nous allons garder la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte du fait que nous sommes captifs aujourd'hui. Nous sommes esclaves aujourd'hui parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Donc, ça va faire. On veut changer cela. On veut saisir notre raison d'être. On va signer un contrat que nous allons obéir à la parole de Dieu. Je ne dis pas que vous avez besoin de faire cela, littéralement. Mais dans votre cœur, prenez une décision qu'avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec la puissance de Dieu, n'est-ce pas bon de savoir, Philippiens chapitre 2, qui dit que c'est Dieu qui agit en vous, qui vous donne le vouloir et le pouvoir de faire sa bonne volonté. C'est-à-dire que si tu veux faire la volonté de Dieu, tu peux faire la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui te donne la capacité. Wow! Je suis excité aujourd'hui. C'est bon. Néhémie, il continue en Néhémie chapitre 10, verset 28. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés du peuple d'étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles. Les enfants sont inclus dans cela. Laisse-moi vous dire, les ados, les enfants, c'est pas juste papa et maman, grand-maman, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Puis, il continue ici, tous ceux qui étaient capables de, qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique. Comment on dit, mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Est-ce que vous voyez la réponse? C'est pas juste on entend, mais oui, j'entends. On dit amen, on se prosterne et on signe un contrat, on va le faire. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Jacques 1, 25, dans le Nouveau Testament dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera quoi? Heureux dans son activité. » Est-ce que vous voulez être heureux? Le secret du bonheur, c'est là. Mettre la parole de Dieu en pratique. Puis, troisième chose, on va terminer avec cela aujourd'hui. On a parlé de l'importance de s'attacher à sa famille, de se fortifier dans sa foi, mais aussi, moi je sais, vous savez, que même si on commence avec beaucoup d'énergie des fois, si on ne fait pas attention, on peut commencer à manquer de gaz. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu cette expérience? On est tout feu, tout flamme, on y va, on fonce, on va vivre pour le Seigneur. Et puis, manque de gaz. Et c'est pourquoi on a besoin de renouveler notre force sur une base régulière. On vient de faire un long voyage et malheureusement, j'avais besoin d'arrêter plusieurs fois pour faire le plein. J'aurais aimé ça, faire le plein à Drummondville, faire quelques milliers de kilomètres, revenir sans jamais avoir consommé de gaz. Mais ça marche pas comme ça. Quand on fait quelque chose, quand on va quelque part, on brûle les calories, on brûle de l'énergie, on a besoin de remplir le réservoir, n'est-ce pas? Spirituellement parlant, c'est la même chose. J'ai vu ça avec l'équipe cette semaine et avec les membres de notre église qui ont travaillé si fort. Hein? Des personnes qui étaient fatiguées, mais jamais ils ont eu une mauvaise attitude. J'ai jamais vu une personne avec une mauvaise attitude. Tout le monde était de bonne humeur, content, heureux d'être ici. Ils ont travaillé, travaillé, travaillé. Ils manquaient de gaz, mais ils ont fait confiance au Seigneur pour renouveler leur force aussi. La bonne nourriture de Jeff n'a pas, ça a aidé aussi, par exemple, hein. Surtout la tarte, aux patates sucrées, hein. Il fallait que je le mentionne, pour la caméra. Non. Non, mais laisse-moi vous dire. Dieu veut qu'on continue à faire sa volonté, pas juste quelques jours, pas juste quelques mois, pas juste quelques années, mais jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut renouveler sa force. Et regarde bien. Voici quelques clés. Donc le troisième point, c'est de renouveler votre force. Mais Néhémie 8, 9 dit, Néhémie, le gouverneur, Ezra, le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Je vais revenir à cela dans une minute. « Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera quoi? » Amen. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances. Tout le monde dit des grandes réjouissances. Car il avait compris les paroles qu'on lui avait expliquées. Quand vous comprenez la parole de Dieu, vous allez vous réjouir. C'est impossible d'être assis dans l'église et entendre la prédication de la parole de Dieu et de voir toutes les belles choses sans être réjoui dans le cœur. Regarde bien. Premièrement, on voit que la joie de l'Éternel est notre force. Donc, vous voulez renouveler votre force, restez joyeux. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Regarde quelqu'un et dit, soyez toujours joyeux. Avec un sourire. Maintenant, regarde l'autre personne et dis la même chose. Donc la joie de l'Éternel est notre force. Mais une autre chose qu'on voit ici, c'est qu'il ne faut pas se laisser, ne vous laissez pas affliger par les erreurs du passé. Regarde bien qu'est-ce qui se passe. Le peuple de Dieu, ils sont esclaves, captifs, ils sont retournés en Israël pour rebâtir les murs, et là ils entendent, peut-être pour la première fois depuis des années, la parole de Dieu. Et quand ils entendent la parole de Dieu, oh, la conviction du Saint-Esprit, oh, ils voient que ça, c'est qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse, je l'ai pas fait. Dieu dit ça, moi, ma vie, c'est le contraire. Quel désastre! Et les gens pleuraient à cause de la vérité de la parole de Dieu. Et laisse-moi vous dire, il y a un équilibre, parce que la Bible dit, dans le Nouveau Testament, qu'il y a une tristesse qui nous amène à la repentance. Ça, c'est correct. On voit notre vie dans la lumière de la parole de Dieu. Oh, on est triste par cela et on se repent. Mais une fois qu'on se repent, on ne reste pas dans la tristesse. On ne continue pas de se laisser affliger ou culpabiliser ou condamner par le passé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait une erreur? Simon. Tu viens de faire la première gaffe de ta vie. Tu viens de mentir. Mais c'est quand même pas si pire parce que tu as quoi? Donc 22 ans, donc pas pire, une erreur dans 22 ans. Et on est tous témoins aussi. On a pu célébrer ensemble. Mais, juste pour vous réveiller un peu. Mais, vous savez que si on regarde dans la parole de Dieu et on voit qu'est-ce qu'on est supposé d'être, on voit les manquements, on voit les erreurs, c'est facile de laisser l'ennemi nous culpabiliser, nous condamner. Mais il ne faut pas se laisser affliger par les erreurs du passé. Comme Paul a dit, et je pense que je l'ai même mis sur le PowerPoint, une chose que je fais, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oubliez le passé. S'il y a des choses de votre passé, c'est la chose, il faut distinguer. Des fois, les gens parlent du passé, mais c'est pas vraiment le passé, c'est le présent. Parce que vous faites toujours la mauvaise affaire. Là, qu'est-ce que ça prend? C'est la repentance. Changez de direction, demandez l'aide de Dieu. Mais une fois que vous vous êtes repenti, oubliez ces choses, parce que Dieu a oublié, c'est dans une mer d'oubli, ça n'existe plus. C'est le sang de Jésus qui a effacé nos péchés, n'est-ce pas? Bonne nouvelle. Puis, finalement, prenez le temps de célébrer la vie et de célébrer les victoires. C'est sûr que si vous voulez garder la force, c'est la joie de l'Éternel qui sera votre force. Si vous êtes triste, déprimé, ça va puiser et siphonner toutes vos énergies. Mais si vous êtes dans la joie, vous allez renouveler votre force de jour en jour et vous allez voir que la gloire de Dieu va se manifester de plus en plus dans votre vie. Prenez le temps de célébrer. C'est ça qu'ils ont fait en Néhémie. Néhémie 12, 43, on voit une autre célébration. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances. On a besoin de se livrer aux réjouissances des fois. Amen. Alléluia. Ils sont livrés aux réjouissances. Car, pourquoi? Car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Oh ben. C'est bon, j'ai besoin du miroir. Je pense que vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Dieu a donné un grand sujet de joie. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Ouvrez vos yeux. Vous respirez aujourd'hui. Vous êtes entouré des hommes et des femmes de Dieu qui aiment le Seigneur, votre famille spirituelle. Nous sommes dans une belle bâtisse qui est encore plus beau aujourd'hui que la semaine passée. Mais même si on n'avait pas tout ça, qu'est-ce qu'il nous a donné comme grand sujet de joie? Il nous a donné son Fils. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné les promesses merveilleuses de sa parole. Nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés. Nous sommes bénis en lui. Hein? On a un grand sujet, on a raison de se réjouir. Amen. Des grandes réjouissances. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que ici, c'est marqué que les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Pensez-vous qu'on pourrait faire entendre les cris de joie à nos voisins ce matin?
Oui.
Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Alléluia! Puis, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Continuellement, sans cesse. Regarde quelqu'un a dit sans cesse. Sans cesse, on doit célébrer, on doit se réjouir. Et juste pour terminer, regardons, j'ai remis le verset qu'on va commencer, si tu peux changer l'écran ici, je pense que c'est là. On va terminer avec ce qu'on a lu comme verset pour commencer. Que lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte et éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Et encore, ma prière pour nous en tant qu'Église, pour vous en tant qu'individu, pour l'équipe de Syracuse et tout le monde, c'est qu'à la fin de notre vie, nous aurons saisi notre raison d'être. Et le monde qui nous entoure va dire, ça c'est une chose qui était faite par la main de Dieu. Et c'était pour la gloire de Dieu. Amen. On va prier ce matin, si je peux avoir quelqu'un au piano. Est-ce que vous êtes content d'être venu à l'Église ce matin? Alléluia. Le meilleur est à venir. Donc, Jean-Charles va jouer juste avant de terminer la réunion. Moi, j'ai fait un engagement. J'ai pris un engagement devant le Seigneur. C'est qu'à chaque dimanche matin, avant de clôturer la réunion, je donnerai l'occasion à tous ceux et celles qui sont présents de donner leur vie au Seigneur Jésus. Parce que peut-être il y a des gens ici qui disent, mais ça a l'air bon, hein, de faire partie d'une famille spirituelle, mais franchement, j'ai pas l'assurance aujourd'hui de faire partie de la famille de Dieu. Je dirais, oh, ça serait bien de faire battre ma foi, mais dans le fond, je sais même pas c'est quoi, j'ai pas encore vraiment donné ma vie au Seigneur Jésus. C'est difficile pour vous de renouveler votre force parce que vous n'avez même pas reçu la force du Seigneur peut-être pour la première fois. Donc ce matin, j'ai juste trois images que je veux vous montrer qui vont vous aider. Je demande à tout le monde juste de rester tranquille pour les prochaines quelques minutes, parce que ce que nous allons faire peut faire la différence pour l'éternité pour un individu aujourd'hui. Il y a des gens que s'ils écoutent et ils entendent, ils comprennent, ça se peut qu'ils vont passer de la vie, de la mort spirituelle à la vie spirituelle, et au lieu de passer l'éternité à l'enfer, ils vont passer l'éternité au ciel avec toute la famille de Dieu. La première chose que je veux vous dire, c'est que c'est pas une question de faire partie d'une assemblée, une église particulière qui va déterminer si vous allez passer l'éternité au ciel ou non. En fait, vous pouvez venir ici et rester assis dans une église pendant des années et vous n'allez pas devenir un chrétien automatiquement. Comme vous pouvez aller chez McDo, s'asseoir pendant des heures, vous n'allez pas devenir un hamburger. Mais la première chose que je veux que vous voyez, c'est que ici, nous avons l'homme qui est pécheur, qui a besoin d'un sauveur et qui est séparé d'avec Dieu, qui est saint, qui est à 100% parfait. Il y a comme une séparation et c'est le péché qui nous sépare d'avec Dieu. Et on peut essayer de faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut pour rejoindre Dieu, mais nos efforts sont jamais assez. Personne ne peut le faire. Qu'est-ce qui est nécessaire pour se rejoindre à Dieu? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La deuxième image que nous voyons, c'est que c'est seulement Jésus qui peut ramener l'homme à Dieu. C'est Jésus qui était 100% Dieu et 100% homme. Mais la différence, c'est que Jésus était parfait, un homme parfait qui n'a jamais péché. Et Jésus a fait un pont. Et tous ceux qui croient en lui, parce que nos péchés ont été mis sur Jésus-Christ, et il a fait un pont pour nous. Et si vous voulez, la vie éternelle, c'est un don gratuit que vous pouvez recevoir en Jésus. Mais, regarde la prochaine image. Posez-vous la question, où êtes-vous? On peut arriver au pont et dire, bon, c'est un pont. Je crois que c'est le seul pont qui va m'amener à l'autre côté. Mais si vous ne prenez pas une décision personnelle de traverser le pont, vous restez toujours à l'autre côté. Donc, croire que Dieu existe, croire que Jésus est le Sauveur, c'est pas assez. Il y a des milliers de personnes qui assistent dans les, aux assemblées régulièrement qui croient que Jésus est le Sauveur du monde, mais qui n'ont jamais pris une décision personnelle de traverser le pont. Posez-vous la question. De quel côté de la croix est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? Si vous quittez le bâtiment aujourd'hui et votre cœur arrête de battre, est-ce que vous savez sans aucun doute que vous allez passer l'éternité au ciel? Vous dites, mais je suis une bonne personne. La Bible dit que tous ont péché. Personne n'est assez bon. Oui, mais je lis la Bible. Nulle part dans la Bible, c'est marqué que la lecture de la Bible peut nous sauver. Oui, mais j'assiste à l'église. Nulle part est-ce que c'est cité que assister à l'église peut nous sauver. En fait, il y a juste quatre choses qu'on a besoin de faire. Si on peut regarder l'autre diapo, il faut recevoir personnellement le don de Jésus-Christ. Papa ne peut pas le faire, grand-maman ne peut pas le faire pour moi, il faut que je le fasse. Numéro un, regardons. Tous ceux qui ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous avez reçu Jésus personnellement? Regardons. Numéro un, il faut accepter que tu ne peux pas te sauver toi-même. Personne. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Regardons le verset. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Regardons une deuxième étape, si vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin. Il faut tourner vers Dieu et changer la direction de votre vie. Si vous marchez dans un sens qui est le mauvais sens, il faut s'arrêter, il faut se repentir et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais suivre Jésus. En fait, on voit cela. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Regardons la prochaine étape pour recevoir Jésus. Confesse avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur en croyant du cœur. La Bible dit en Romains 19 que si tu confesses avec ta bouche, pas ma bouche, mais ta bouche, le Seigneur Jésus. Tu sais quoi, un Seigneur c'est un patron, c'est lui le boss, c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, c'est lui qui est au volant de ta vie, n'est-ce pas? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Puis finalement, sois prêt à la professer devant les autres. Jésus a dit à Matthieu chapitre 10, regardons ce verset. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Les gens disent, oh, mais ma foi, c'est une chose personnelle. Mais Jésus dit, il faut être prêt à confesser sa foi devant les hommes. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera, c'est Jésus qui parle. Quiconque me reniera, je le renierai aussi devant le Père. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une occasion. Je vais prier pour vous. Et si vous n'avez pas encore traversé le pont, c'est votre occasion. Je vais vous inviter à faire cette profession de foi ce matin. Donc, si vous avez besoin de donner votre vie au Seigneur Jésus, ou si vous vous êtes éloigné de Jésus, ou si vous n'avez plus l'assurance d'être sauvé parce que vous avez toutes sortes de questions dans votre tête, laisse-moi vous dire, aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez donner votre vie au Seigneur et traverser le pont. Pensez pas à ce que les autres vont dire ou penser. Si tu me confesses devant les hommes, Jésus a dit, je te confesserai devant mon Père. Si tu me renies devant les hommes, je te renierai. Je vais taper mes mains quand je compte à trois. Et si vous êtes là, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, je te donne l'occasion, juste lever ta main vite, vite dans l'air. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Juste lever la main, vite. Personne? Je vous donne l'occasion, j'ai fait la promesse. Vous avez besoin de revenir à Jésus. Levez la main. Haut dans l'air. Peut-être tout le monde ici l'a déjà fait. C'est seulement entre toi et Dieu, c'est seulement Dieu qui sait. Mais moi, j'ai fait un engagement qu'à chaque dimanche, je donnerai l'occasion. Donc, c'est-à-dire que c'est à nous maintenant, l'Église, ceux qui sont en Jésus, à chaque dimanche, d'amener des personnes qui ont besoin de le connaître, n'est-ce pas? On a eu, dans les derniers deux mois, à peu près 40 personnes qui ont répondu à cet appel. Et moi, je sais que c'est juste le commencement. C'est sûr qu'avec les dernières semaines de l'été, on a eu moins de visiteurs, mais laisse-moi vous dire, l'automne s'en vient, la moisson est grande, les ouvriers sont peu, mais nous voici, Seigneur, envoie-nous, n'est-ce pas? Donc, on va venir, on va amener des âmes, et surtout, nous allons vivre pour la gloire de Dieu. On va se lever debout. Nous allons faire une dernière chant, Tanya et moi, nous allons aller à la porte pour vous donner la main.